Le journal, bonsoir Hélène-Philippe.
Bonsoir à tous. Il n'y avait pas de ravisseur. La jeune fille disparue en Mayenne avoue avoir menti. On fera le point sur les derniers éléments de l'enquête. Couvre-feu, confinement, on croyait ce vocabulaire derrière nous. La flambée des cas de Covid pousse pourtant nos voisins à se poser la question. Aux Pays-Bas, notamment, l'Autriche, elle, a décidé de cibler. Elle réfléchit à un reconfinement pour les seuls non vaccinés face à la nouvelle flambée de cas de Covid. Dans ce journal aussi, une enquête sur des soupçons de viol à l'Elysée, un militaire mis en cause. L'Union européenne fait bloc face aux manœuvres biélorusses à la frontière polonaise. Nous serons à Beyrouth, zone de transit pour une partie des exilés aujourd'hui piégés dans le froid. Médecins sans frontières déploie de grands moyens pour mettre à l'abri les migrants de Briançon. Et puis on ira au cirque, c'est le choix culture du vendredi. Et au téléphone sonne, Claire.
Eh bien, on va parler de la COP 26 qui se termine à Glasgow. Entre les jeunes militants qui parlent de blabla et ceux qui insistent sur l'importance des petits pas, on va tenter de faire la part des choses, de voir s'il y a des engagements concrets, s'ils sont de nature à éviter une catastrophe planétaire. On attend vos appels au 01 45 24 7000.
Elles s'en vont et elles reviennent, les mesures de restriction. La cinquième vague de l'épidémie de Covid est bien là en Europe. Le Centre européen des maladies juge la situation d'une dizaine de pays très inquiétante. Belgique, Pays-Bas, Grèce et plusieurs États réfléchissent donc à remettre en place couvre-feu et même confinement. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Hélène.
Alors on va faire le tour avec vous hein, parce que la carte est intéressante. On commence avec nos voisins, les Pays-Bas. Les experts recommandent un reconfinement partiel de 3 semaines. On attend une annonce là ce soir.
Oui, fermeture anticipée des restos et cafés dès 19h, compétition sportive à huis clos, voire bulle sociale, 3 ou 4 visiteurs maximum par foyer. Mark Rutte, le Premier ministre, doit confirmer tout cela dans les minutes qui viennent. Le choc s'annonce rude pour un pays très épris de ses libertés et où les antipasses sont prompts à manifester.
Les Pays-Bas, donc, qui ont à peu près le même taux de vaccination que nous, hein, Louise. Et en Autriche, il y a un projet là de confiner les non-vaccinés.
Oui, c'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le chancelier autrichien Alexander Schallenberg.
La majorité de la population qui a fait le bon choix, celui de se protéger, mérite d'être aujourd'hui protégée à son tour. Je ne crois pas que l'ensemble de la population doive se montrer solidaire en se confinant. C'est pourquoi l'objectif est clair, nous voulons donner dimanche le feu vert à un confinement national pour les non-vaccinés.
Un confinement discriminatoire assumé dès lundi en Haute-Autriche et à Salzbourg, puis généralisé en cas d'accord ce week-end du Parlement et des autres régions. Pression maximale en tout cas sur les non-vaccinés, alors que les soins intensifs sont déjà saturés. Le taux de vaccination, 64% de la population totale, 10 points de moins qu'en France, est honteusement bas selon les autorités.
Alors ça c'est pour les mesures les plus fortes sans doute, et puis dans plusieurs autres pays on resserre les vis.
Oui, en Allemagne, les non-vaccinés n'ont plus accès depuis lundi aux restos, bars et salon de coiffure dans la Saxe. Ce sera également le cas à partir de lundi prochain à Berlin. Retour du pass sanitaire au Danemark, qu'il avait supprimé en septembre. Il fait pour la première fois son apparition en Norvège. Et puis enfin, même l'Islande n'est pas protégée par son insularité. Elle renoue ce soir avec les jauges et les fermetures anticipées des bars et des restaurants.
Alors, concernant la France, pour l'instant, l'inquiétude de l'Agence européenne des maladies reste modérée. L'Espagne, qui est le pays le plus vacciné d'Europe, est l'un des seuls avec la Suède et Malte à échapper pour le moment à cette cinquième vague.
À 19h04 sur France Inter, le doute et puis l'aveu du mensonge.
La jeune fille qui avait disparu en Mayenne avant de réapparaître 24 heures plus tard était entendue une nouvelle fois aujourd'hui au commissariat de Château-Gontier et elle a donc avoué avoir menti. Bonsoir Mathilde Vincent.
Bonsoir.
La jeune Lisa n'a pas été enlevée comme elle l'avait d'abord raconté.
Oui, quand les enquêteurs l'interrogent pour la première fois, la lycéenne vient d'être retrouvée légèrement blessée dans un snack à 10 km de la forêt où elle était partie courir. Et elle raconte un enlèvement, deux hommes dans une camionnette verte, une maison aussi où elle aurait été séquestrée avant de réussir à s'enfuir. Mais les gendarmes doutent, il y a des incohérences dans son récit. Et après plus de 48 heures d'enquête, elle avoue donc, elle a parcouru les 10 km à pied. Ses blessures sont accidentelles, son t-shirt arraché, elle l'a découpé avec un ciseau, précise le parquet de Laval. André Boisseau est le maire de Saint-Brice où habite l'adolescente. Il répond à France Bleu Mayenne.
Donc c'est triste pour ses parents. C'est triste d'avoir mis les gens pendant 24 heures dans l'angoisse, dans la peur. Voilà. J'espère que tous les gens vont bien voir que bah, dans la commune, il y a aucun risque. Donc d'un côté, je suis très soulagé qu'on puisse reprendre notre liberté, etc. Ça m'embête, enfin, je comprends pas trop son geste.
La jeune femme s'est dit désolée d'avoir causé une mobilisation importante. Pendant les 24 heures avant sa réapparition, jusqu'à 200 gendarmes se sont déployés pour ratisser la zone.
La jeune fille qui fera l'objet d'une procédure pour dénonciation d'infractions imaginaires. Merci beaucoup Mathilde Vinceneux. Cette enquête ouverte sur des soupçons de viol à l'Élysée à présent. Une militaire affectée à l'état-major particulier du président de la République accuse l'un de ses collègues de l'avoir violée au cours d'une soirée. Bonsoir Laurélie Carrive.
Bonsoir.
On apprend aujourd'hui qu'une information judiciaire a été ouverte l'été dernier.
Oui, le 1er juillet dernier, un pot de départ a lieu dans les jardins de la présidence de la République. Emmanuel Macron passe d'ailleurs y dire quelques mots. La soirée se poursuit ensuite dans les locaux de l'état-major particulier du chef de l'État, rue de l'Élysée. Quelques heures plus tard, une main courante est déposée au commissariat du 8e arrondissement de Paris. Le 12 juillet, le parquet décide d'ouvrir une information judiciaire pour viol. La militaire à l'origine de ces accusations a 31 ans. Il semblerait qu'elle connaissait auparavant le collègue qu'elle met en cause. Après avoir été interrogée par le juge d'instruction, lui a non pas été mis en examen, mais placé sous le statut de témoin assisté, qui est un statut moins incriminant. Évidemment, tout cela peut évoluer au fil de l'enquête. Du côté de l'Élysée, on refuse de commenter une affaire en cours, tout en précisant que le militaire en question a été muté, loin de l'Élysée. La présidence dit attendre les conclusions de l'enquête judiciaire pour décider des suites à donner.
Et Laurélie Carrive pour ses premières précisions. Et voici des mots qui interpellent. Alors que l'Église de France doit faire face à ses années de silence face aux abus sexuels en son sein, les mots de remerciement du pape au cardinal Barbarin cet après-midi lors d'un discours à Assise en Italie.
Je tiens à saluer la présence du cardinal. Il est parmi les pauvres. Lui aussi a vécu dignement l'expérience de la pauvreté, de l'abandon, de la méfiance. Et il s'est défendu par le silence et la prière. Merci au cardinal Barbarin pour son témoignage qui construit l'Église.
Le cardinal Barbarin condamné pour son silence face aux agressions d'un prêtre de son diocèse, puis finalement relaxé en 2019. Il n'a pas souhaité réagir à l'intervention du pape François, traduit dans ce journal par Franck Madvon.
C'est donc l'heure des ultimes tractations à Glasgow pour la conférence climat.
Le moment où chaque mot est discuté, corrigé, rajouté. Sandy Dauphin, vous êtes notre envoyé spécial à Glasgow. Bonsoir Sandy.
Bonsoir.
Alors où en sont les négociations? On s'oriente vers une troisième mouture du texte.
Eh bien, écoutez, oui, la COP26 devait officiellement se terminer en ce moment, c'est-à-dire 18h heure de Glasgow, et sans surprise, comme à chaque fois, le sommet climat va déborder. Cet après-midi, les délégués ont examiné pendant 3 heures en séance plénière la deuxième mouture du texte final proposé par la présidence britannique. 38 pays se sont exprimés. Le président de la COP26, Alok Sharma, a pris bonne note.
My intention is to publish...
Et il explique que son équipe et lui vont revenir ce soir avec une nouvelle version du texte. Ils vont encore devoir trouver des compromis sur des points de blocage comme la question de l'aide financière aux pays pauvres. Les États vulnérables comme les îles du Pacifique et des Caraïbes demandent par exemple aux pays développés de compenser les dégâts irréversibles causés par un changement climatique qu'ils n'ont pas provoqué. Dans le jargon des Nations Unies, on appelle ça les pertes et dommages. Le texte final de la COP26 pourrait mentionner pour la première fois les énergies fossiles à l'origine du réchauffement climatique et la nécessité de diminuer leurs subventions, un point soutenu par John Kerry, l'émissaire du président américain pour le climat.
Sandy Dauphin avec...
Nous luttons chaque année pour trouver de l'argent, mais ces 5 ou 6 dernières années, il y a eu 2500 milliards de dollars de subventions aux énergies fossiles. C'est la définition même de la folie.
Nuit blanche ou pas à la COP26 de Glasgow, difficile à dire pour l'instant.
Sandy Dauphin, vous étiez donc notre envoyé spécial à Glasgow avec Martin Troidec. Merci à tous les deux. Une sortie des énergies fossiles qui s'ancre un peu plus dans les esprits. La France a d'ailleurs sur le tard, mais finalement rejoint l'accord, mettant fin au financement à l'étranger de projets d'exploitation d'énergie fossile. Et pendant ce temps, à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, des mouvements de troupes russes et biélorusses préoccupent les capitales occidentales. L'Union européenne fait bloc face à la Biélorussie, qu'elle accuse d'orchestrer un afflux de milliers de migrants en représailles aux sanctions européennes qui lui ont été infligées. Aurélien Colli, vous êtes notre correspondant au Liban. Le numéro 2 de la Commission européenne est en ce moment, aujourd'hui, dans votre région, point de départ de nombreux migrants. Et il a porté un message plutôt ferme, Aurélien.
Oui, après Dubaï, Beyrouth pour Margaritis Skinas, après des entretiens avec les autorités libanaises. Il n'a pas mâché ses mots pour dénoncer les méthodes du pouvoir biélorusse, instrumentalisation sans scrupules et utilisation des migrants comme arme contre l'Union européenne par le régime Loukachenko. Écoutez-le.
Laissez-moi être clair. Ces gens sont vendus par des réseaux internationaux de passeurs qui leur mentent, qui les acheminent par avion jusqu'à Minsk en leur faisant croire qu'ils leur assureront un passage en toute sécurité dans l'Union européenne.
Alors dans la ligne de mire du numéro 2 de la Commission européenne, les représentations diplomatiques biélorusses qui délivrent des visas de tourisme aux candidats à l'immigration vers l'Europe, les réseaux de passeurs qui les vendent, parfois même via des agences de voyage, les compagnies aériennes aussi qui les transportent, en particulier une compagnie biélorusse, Belavia. Des changements sont en cours, ça ne continuera pas comme ça, a insisté le représentant européen, en saluant les engagements pris par les pays du Golfe, par les autorités turques et libanaises, de coopérer pour empêcher désormais l'embarquement de ces migrants dans des vols à destination de la Biélorussie, soit via leurs compagnies aériennes, soit via celles qui transitent par leurs aéroports.
Aurélien Colli, en direct de Beyrouth au Liban, merci à vous. La tension qui a par ailleurs du mal à retomber entre Paris et Londres au sujet des traversées de la Manche. L'Angleterre accuse la France d'échec inacceptable après la disparition de 3 migrants hier qui tentaient de rejoindre ses côtes en kayak, ce qui provoque la colère de Paris. Une brouille qui dure depuis plusieurs semaines et qui s'ajoute à celle sur les licences de pêche. À Briançon, dans les Hautes-Alpes, Médecins sans frontières installe de son côté demain l'une de ses tentes d'urgence humanitaire pour mettre des migrants à l'abri. Une centaine de personnes qui ont dormi à la fois dans la gare, dans l'église, sans solution concrète en réalité depuis plus de 2 semaines. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Et c'est un peu une première en France. On n'a pas vraiment l'habitude de voir ce genre d'installation. On a plutôt l'habitude de les voir après des catastrophes naturelles que dans un centre-ville.
Oui, pour Médecins sans frontières utilisait cette tente de 100 mètres carrés chauffée en France pour abriter des personnes en danger humanitaire. C'est une première, dénonce Julien de Lausanne, coordinateur de projet pour MSF.
C'est un dispositif qu'on n'a pas l'habitude d'installer sur le territoire français. C'est un dispositif habituellement monté dans des contextes de catastrophes naturelles. Moi, je l'ai vu monter par exemple en Haïti, après le tremblement de terre, aux Philippines, après le typhon, dans des contextes où l'urgence est telle que l'État n'est pas capable de répondre à la crise. On constate aujourd'hui qu'en France, l'État a visiblement une incapacité éthique à répondre à ses obligations.
Cette fois, l'urgence humanitaire se déroule donc bien chez nous, à Briançon, 3 semaines après la fermeture du refuge solidaire, surpeuplé selon l'association qui l'avait ouvert. Alors les militants demandent à l'État un lieu d'accueil pour les migrants, la préfecture refuse. 80 à 100 personnes dorment donc en ce moment dans des barnums, sur un terrain mis à disposition par le diocèse, dans des conditions difficiles, dénonce Simon, porte-parole de la coordination des associations.
Le terrain humide, c'est de la boue. Certaines nuits, il fait plus de moins 10 degrés. Ces derniers jours, certaines personnes sont arrivées en hypothermie. D'autres ont un peu de traumatologie, donc entorses. Elles arrivent dans un endroit très précaire.
Et pour les associations, cet hiver, les arrivées depuis la frontière italienne, toute proche par la montagne, ne devraient pas se tarir. La plupart des exilés sont originaires d'Afghanistan.
Et des associations qui appellent à un rassemblement demain à 14h dans le centre de la ville pour soutenir les migrants. EDF ne coupera plus plus la lumière en cas d'impayé toute l'année et plus seulement pendant la trêve hivernale. C'est une très bonne nouvelle pour les associations qui demandent maintenant à ce que les fournisseurs alternatifs suivent l'exemple de l'électricien. EDF, qui est par ailleurs visé par une plainte de l'un de ses salariés, cadre de la centrale de Tricastin dans la Drôme. Il dénonce une politique de dissimulation d'incidents de sûreté ces dernières années. Le PSG est bien embarrassé, sonné même après l'agression de l'une de ses joueuses la semaine dernière et la garde à vue finalement levée d'une de ses coéquipières. Aminata Diallo est ressortie libre hier soir sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle à ce stade. Son avocat, maître Mourak Batik.
Elle se sent affectée, elle se sent diminuée. Son nom a été jeté en pâture. On oublie que derrière tout ça, il y a quand même une carrière qui se joue. Il peut y avoir des conséquences sportives et professionnelle pour elle. Donc elle est dans un état de fragilité psychologique assez important. Mais Madame Diallo est une femme forte qui va de l'avant. Elle a clamé son innocence. Elle ressort de cette garde à vue sans aucune conséquence. Elle a collaboré entièrement et pleinement avec les services de police. Elle a subi une perquisition. On a fouillé son téléphone. Et au sortir de toutes ces exploitations, on sait qu'il n'y a rien qui relie ma cliente à cette agression. Et donc, elle se tient prête, elle se tient à disposition du Paris Saint-Germain. Elle a envie de refouler les pelouses et de faire son travail, aider l'équipe, aider le Paris Saint-Germain à gagner des titres.
On voit bien que la situation secoue le club. Le PSG voulait d'ailleurs reporter son match prévu à Lyon dimanche, ce que la fédération refuse. Et l'entraînement des joueuses cet après-midi à Bougival, dans les Yvelines. Vous y étiez, Winnie Claret, bonsoir.
Bonsoir.
Et c'était une vraie forteresse.
Oui, de mémoire de riverain, jamais on avait vu le complexe sportif autant protégé. Une dizaine d'agents de sécurité étaient mobilisés pour l'occasion. Ils ont gardé les entrées et l'intérieur du centre toute la journée. Impossible d'approcher quand le balai des voitures a commencé ce matin pour l'arrivée des joueuses. D'habitude, elles se garent toutes à l'extérieur et elles entrent leur sac sous le bras. Aujourd'hui, entraînement sans Aminata Diallo et Keira Amraoui. La direction du PSG a rencontré les deux joueuses dans l'après-midi pour prendre de leurs nouvelles et surtout voir comment elles pourront réintégrer l'équipe. Un retour qui s'annonce délicat alors que le mystère demeure sur l'agression de jeudi dernier.
Winnie Claret, merci pour ces dernières précisions. Et puis en bref, cette condamnation à 18 mois de prison pour l'homme qui a organisé le vol qui a coûté la vie au footballeur Emiliano Sala en 2019. Il avait engagé un pilote qui n'était pas qualifié. Et puis le rappeur MHD Star International sera jugé avec 7 autres personnes pour le meurtre d'un jeune homme lors d'une bagarre à l'été 2018 sur fond de rivalité entre bandes.
On parle du choix culture comme chaque vendredi à présent.
Oui, qui nous emmène au cirque ce soir. La troisième édition de la Nuit du Cirque commence et pour 3 jours, plus de 200 spectacles un peu partout en France et même parfois à l'étranger. Stéphane Capron s'est glissé sous le chapiteau du cirque Pardi à Nantes.
Si tu peux se jeter sur le collier sur le mât.
Timothée Loustalou-Garès est le funambule du spectacle. Il s'assure que son câble est en totale sécurité.
Dans le spectacle, du coup, je fais une traversée ascensionnelle. Donc je pars d'en bas et je monte. Enfin, j'essaye de monter.
Le cirque Pardi a posé ses valises pour un mois à Nantes. C'est une grande famille avec tous ses enfants. La plus jeune a 6 mois. C'est la fille de la trapéziste Eva Ordóñez.
C'est une famille avec toute l'amour qu'on a pour la famille et tout, les problèmes aussi. Du coup, si ça dort pas la nuit, c'est long, quoi.
Le cirque Pardi a été créé en 2011, entre autres par Maël Tortel. Il a conçu et imaginé le chapiteau de 360 places en forme d'ampoule. Toutes les créations de la compagnie sont collectives. C'est le cas de ce dernier spectacle, Low Cost Paradise.
Chaque artiste apporte son propos et porte son propos par la suite. Du coup, il y a beaucoup de sujets différents et on aime parler de sujets qui sont grinçants, en tout cas, donc dans la société, cette histoire de société zapping qui va beaucoup trop vite.
Le tout avec un côté punk revendiqué, mais aussi un côté absurde, tragique et poétique. Lost in this road, lost in this game, in this
paradise lost. Low Cost Paradise par le cirque Pardi. C'est au Parc des Chantiers à Nantes jusqu'au 5 décembre et donc dans le cadre de la troisième nuit du cirque. Un reportage à réécouter, coulisses, hein, c'est la rubrique coulisses de la matinale de demain à 6h50. Un grand merci aussi à ceux qui étaient aux manettes cette semaine des journaux, Clément Berman et Michel Bézikian.
Et un grand merci à vous Hélène Filly. Un bon week-end, on prend des nouvelles du temps.